Oh oui, Père, merci pour ta parole. Merci de ce que, par cette parole, tu veux nous instruire. Et avoir des cœurs ouverts pour écouter ta parole. Et je te prie, Père, de m'aider à transmettre fidèlement ta parole et que ton nom seul soit glorifié. Je te prie aussi pour les enfants, pour qu'eux aussi puissent recevoir ta parole. Nous t'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons continuer dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. Luc 16. La dernière fois, nous avons vu, à propos de l'économe infidèle, nous avons vu combien aussi on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, sans qu'il y en ait un des deux qui soit mis de côté. Et les pharisiens, en entendant cette parabole, se sont moqués de Jésus. On voit verset 14. Les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. Et Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mais ce matin, nous allons surtout parler à partir du verset 19. Donc, Luc 16, à partir du verset 19. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Donc on voit dans ce passage deux vies, deux hommes, deux vies, deux morts, deux destinées. C'est vrai que dans ce passage, il nous parle surtout de ce riche qui vivait une vie bien, joyeuse, qui était bien vêtu avec des pourpres, donc c'était vraiment des habits royaux, avec du fin lin. Et on voyait aussi qu'il vivait, tous les jours c'était la fête. Tous les jours c'était la fête, c'était... Le plaisir, comme il est dit dans Parole vivante, tous les jours, ce n'était que festin et plaisir. Voilà que cet homme pourrait dire, Tous les jours, oui, c'était la fête pendant toute sa vie. Jusqu'au jour qui était le dernier. Il meurt. Et là, il y a eu, bien sûr, un enterrement. Et on peut supposer, vu les richesses, qu'il a dû avoir un enterrement grandiose, avec des éloges funèbres formidables, en disant « Voilà quelqu'un qui a aimé la vie !» Ça, on peut le dire. Mais son regard, son réveil a été dur. Parce que quand il s'est retrouvé de l'autre côté, dans l'au-delà, on voit qu'il est dans le séjour des morts, dans le Hadès, là où se trouvent tous ceux qui sont perdus. Et là, il souffre cruellement, et il voit de loin, très loin, il voit Abraham. Et là, il crie, « Père Abraham, envoie Lazare !» Il voit Lazare à côté, qui vienne me rafraîchir, parce que là, je souffre cruellement dans ces flammes. C'est pas évident, n'est-ce pas? Comment cet homme s'est retrouvé là? Comment cet homme a pu se retrouver là? On peut se poser la question, mais pourquoi? Parce qu'il était riche? Est-ce que c'est parce qu'il était riche qu'il était dans ce lieu-là? Non. J'ai pour preuve certaine, Abraham était riche. Et pourtant, il était dans la félicité. Je pense aussi à Job, je peux penser aussi à Joseph d'Arimathée, je peux penser à plusieurs hommes riches dans la Bible qu'on peut dire qu'ils sont sauvés. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi cet homme se retrouve là? C'est très intéressant d'ailleurs, parce que vous savez, bien souvent on dit, de toute façon avec l'argent on achète tout. Mais là on voit que l'argent ne peut pas acheter le ciel. Et c'est ce que dit d'ailleurs le psaume 49, verset 7. Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Donc, l'argent, avec l'argent, on ne peut pas acheter le salut. On ne peut pas acheter le ciel. Alors, mais pourquoi cet homme se retrouve dans cet endroit-là? En tout cas, on peut dire qu'il était juif. Il était juif parce qu'il appelle Abraham, père Abraham. Oh, c'est vrai qu'il était juif, mais on peut dire juif de chair, mais pas spirituel, parce que Jésus avait dit à un moment donné, quand les Juifs ont dit « Ah, mais nous avons pour père Abraham !» Il dit « Mais si vous aviez pour père Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham !» Et on peut dire cet homme ne faisait pas les œuvres d'Abraham. Alors s'il était juif, il devait être censé connaître la parole de Dieu, au moins les livres de Moïse. Oh, il aurait dû connaître ce passage de Deutéronome 15 qui dit « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur. Tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. » La parole de Dieu enseigne à pourvoir aux besoins de ceux qui sont dans la disette. Et on peut dire que cet homme a pu voir Lazare, ce pauvre malade, à la porte. Et chaque jour, il devait voir cet homme. Il devait passer à côté. Et on sait qu'il le connaissait parce que on voit qu'il demande à Abraham d'envoyer Lazare. Il connaissait son nom. Mais il n'a pas pourvu à ses besoins. Son cœur était fermé. Son cœur était dur. Et le Nouveau Testament nous dit ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Cet homme n'avait pas l'amour de Dieu en lui, parce qu'il négligeait et méprisait ce pauvre. Et pourtant, la parole de Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc on peut conclure que cet homme n'aimait ni son prochain, mais ni Dieu. Parce qu'il est dit, nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc on peut conclure que cet homme était loin de tout cela. Son Dieu, c'était pas Dieu, c'était Mammon, c'était l'argent, c'était le plaisir, c'était lui, le moi d'abord. Je vais vivre, je vais m'éclater. Et sa vie, c'était que fête, que plaisir. Il aimait plus le plaisir que Dieu. Voilà le résultat de cet homme. En fin de compte, c'est pas parce qu'il était riche qu'il se retrouve dans cet endroit. Il est perdu, car Dieu n'était pas son Dieu. Mais son Dieu, c'était son argent, c'était son plaisir, c'était lui. C'est pour cela qu'il est perdu. La suite de ce récit nous montre que cet homme qui est dans l'au-delà s'aperçoit qu'il ne pourra rien avoir parce que c'est impossible de passer d'un endroit à l'autre. C'est ce que Abraham lui a dit. Il a dit qu'il y a un abîme entre les deux. C'est impossible d'aller l'un vers l'autre. Il voit que ce n'est pas possible pour lui. Et là, d'un seul coup, il dit « Mais il y a mes frères. Il y a mes frères qui sont sur la terre. J'ai 5 frères. » Et là, il va prévenir à Abraham, « Père Abraham, je t'en supplie, envoie Lazare qui retourne sur la terre pour prévenir mes frères, pour pas qu'ils viennent ici. » Tiens. On voit cet homme qui est conscient. Et il ne veut surtout pas que le reste de sa famille vienne dans cet endroit-là. Lui, c'était trop tard. Rien ne pouvait changer. C'était fini pour lui. Et c'est ce que dit la Bible. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'était fini pour lui. Donc il pense à ses frères. Et il dit, mais la solution, c'est que quelqu'un va les prévenir pour qu'ils puissent se repentir. Pour qu'ils puissent changer de vie. Tiens, il comprend pourquoi il est là. Parce que cet homme s'était jamais repenti. Cet homme n'avait jamais changé de vie. C'est pour cela qu'il était dans cet endroit-là. Il était conscient que là, lui, il était perdu parce que il s'était pas repenti. Il s'était pas détourné de ses péchés. Et son désir, c'est qu'il voulait vraiment que ses frères puissent être prévenus. Et c'est là où on voit que cet homme, c'était trop tard pour lui. C'est dramatique de savoir que c'était trop tard pour lui. Et je voudrais vous raconter une petite histoire du bouffon. Un certain seigneur avait un bouffon à son service. Un jour, le noble lui remit un bâton en le chargeant de le garder jusqu'à ce qu'il puisse le donner à un plus fou que lui. Quelques années plus tard, le seigneur tomba malade. Sentant sa mort approcher, il appela son bouffon et lui dit « Je pars pour un grand voyage. Quand reviendras-tu ? Dans un mois ? Non, dit le maître, jamais. Et quel préparatif as-tu fait pour une telle expédition ? Lui demanda le comédien. Aucun. Fut la triste réponse. Tu pars pour toujours, dit le bouffon, et tu n'y es pas préparé. Tiens, prends mon bâton, j'ai trouvé un plus fou que moi. Est-ce que je me suis préparé à la rencontre de mon Dieu? Est-ce que je me suis préparé à la rencontre de mon Dieu? Nous voyons que cet homme savait que la solution pour ne pas venir dans ce lieu, c'était que la personne passe par la repentance, qu'il change de vie. Le mot repentance veut dire souffrance intérieure produite par une conviction de péché, un profond désir de changement. Et Dieu appelle chaque homme à se repentir. Parce que l'homme est pécheur par nature. Dieu est saint et l'homme est pécheur. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu comme cela. On doit reconnaître que nous sommes pécheurs et on doit se repentir. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Actes, au chapitre 17, « Ô Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à toutes les femmes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu appelle tout homme, toute femme à se repentir, à changer de vie. Et nous savons que c'est le message que nous avons à transmettre. C'est vrai que nous avons à transmettre la bonne nouvelle. Mais dans cette bonne nouvelle, nous devons dire que les hommes, les femmes ont à se repentir de leurs péchés. Et c'est ce que dit Jésus après sa résurrection. Il dit, le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et alors, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés sera prêché. Toutes les nations. Et on sait que les disciples ont annoncé la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Important de voir la repentance et aussi la foi. Parce que, hélas, on peut tomber dans une repentance sans foi. Et là, c'est dramatique. Quelqu'un qui voit son mal, qui se lamente, qui dit « Oui, je suis un pécheur » et qui ne voit pas de solution. Il y a une repentance, mais il n'y a pas la foi. La foi, c'est reconnaître que Christ est venu pour me donner le pardon de mes péchés, pour me libérer. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Dieu a accordé la repentance dans quel but ? Pour qu'on ait la vie. Pour qu'on ait de la vie. Voilà. Est-ce que je suis passé par cette repentance ? Est-ce que Dieu est mon sauveur? Est-ce que j'ai capitulé devant Dieu? Est-ce que j'ai pu dire, oui, je suis un pécheur? Je reconnais que ma vie est une vie d'égoïsme, une vie où je pense qu'à moi, une vie où j'ai tout dirigé ma vie que pour moi, que pour mes plaisirs. Est-ce que je suis passé par cette repentance? Est-ce que j'ai reconnu que j'étais un pécheur et que j'avais besoin du pardon de Dieu? C'est important, ça. Parce que le Seigneur nous appelle à passer par cette repentance. Je voudrais aussi rajouter quelque chose. Vous savez, cet homme riche ne croyait pas tout à fait à la parole de Dieu. C'était un incrédule. Cet homme, il voulait des miracles. Pour cause. Quand Abraham lui dit, mais écoute, pourquoi envoyer Lazare? Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Et on voit que ce riche va contredire Abraham. Il dit, non, ça ne suffit pas. La parole ne suffit pas. Il faut un miracle. Il faut qu'il y ait un mort qui ressuscite pour prévenir mes frères, pour qu'ils se repentent. Donc on voit, c'était un homme incrédule. Un homme qui, en fin de compte, il fait des miracles. Vous savez, bien souvent, quelqu'un qui recherche des miracles, c'est parce que c'est quelqu'un qui est incrédule. C'est quelqu'un qui ne croit pas que la parole de Dieu est suffisante. La parole de Dieu est suffisante. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est celle, la seule, qui suscite la foi. C'est la seule qui suscite la foi, comme il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu suffisante qui nous dit et qui nous suscite la foi. Même c'est cette parole qui nous donne la vie. Comme il est dit dans Jacques, chapitre 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Et dans Pierre, il est dit ceci, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est la parole de Dieu qui touche nos cœurs. C'est cette parole qui convainc nos vies de péché. Comme il dit, « Car ta parole est une épée à double tranchant qui partage âme et esprit, jointure et moelle, à juge les pensées de nos cœurs. » Voilà, cette parole touche nos cœurs. Mais aussi, cette parole nous donne la vie, à nous fait naître de nouveau. Donc, pas besoin de résurrection de Lazare pour aller prévenir les frères. D'ailleurs, Christ est ressuscité. Est-ce que les gens croient pour autant? Non? La parole de Dieu suffit. Est-ce que je crois à cette parole? Est-ce que je me suis préparé à cette rencontre avec Dieu? Quand j'arriverai au bout de mon voyage sur cette terre et que je devrais partir, est-ce que je suis préparé pour l'au-delà? Où je vais aller? Est-ce que je vais aller dans le séjour des morts? Ou est-ce que je vais aller dans la félicité? Dès maintenant, je peux répondre à cette question. Je peux savoir dès maintenant où je vais aller. Mais tout dépend de ma décision. Tout dépend quel chemin je prends. Et je pense à ce passage que Jésus a donné à un moment donné. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que je suis passé par cette porte? Est-ce que Dieu m'a sauvé? Est-ce que Dieu est mon Dieu? Alors vous allez me dire, oui, mais alors, je ne comprends pas. Lazare, il est sauvé? Il est dans la félicité parce qu'il était pauvre? Non. La Bible ne dit pas ça. C'était pas parce qu'il était pauvre. Et d'ailleurs, tout le reste de la Bible ne le dit pas. D'ailleurs, même dans le passage que nous venons d'étudier, il nous dit qu'il fallait passer par la repentance. Alors, mais pourquoi Lazare se retrouve dans ce lieu-là? Comment ça se fait que Lazare, lui, il est dans la félicité? On pourrait se poser la question. Quels sont les indices? C'est formidable, le Seigneur nous a donné un indice. C'est une des seules, alors si on peut penser que c'est une parabole, c'est une des seules paraboles où un nom est cité. Parce qu'on n'a pas le nom du riche, mais on a le nom du pauvre. Et le Seigneur a voulu nous donner tout un enseignement rien que par le nom. Et le nom veut dire « Dieu m'a secouru ». Dieu est mon secours, mon aide. Voilà ce que veut dire Lazare. Dieu est mon secours, il m'a secouru. Et nous savons que tout homme, toute femme qui sont sauvées, c'est parce que Dieu les a secourus. Et on peut dire, tout chrétien pourrait dire « Moi, je m'appelle Lazare, parce que Dieu m'a secouru ». Vous savez, il y a des noms comme cela dans la Bible où il y a une signification. Jésus, Dieu sauve. Vous voyez? Là,
hasard. Dieu m'a secouru. C'est parce que Dieu l'avait secouru que Lazare se trouve dans la félicité. Et il est dit dans le psaume 146, verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Est-ce que Dieu m'a secouru? Est-ce qu'il m'a secouru? Il ne peut que secourir que ceux qui crient « Au secours !»« Je suis perdu !»« Saisis ma main craintive !» Et là, le Seigneur le fait. Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Voilà ce que Christ a fait. Est-ce que j'ai été secouru? Et si je ne l'ai pas fait, je peux aujourd'hui même crier au secours, dire « Seigneur, au secours, je suis perdu. Je reconnais que je ne mérite rien. Je mérite d'aller dans ce séjour des morts avec ce riche. Au secours, Seigneur. » Et saisissez par la foi ce secours qui vient de Dieu. Je voudrais tirer une autre leçon aussi. C'est le verset 25. Où il dit que Lazare a eu des maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé. Il est ici consolé. On voit que Lazare est dans la félicité, il est consolé. Bien qu'il ait eu des maux, bien qu'il ait eu des épreuves. Et c'est vrai que, en tant que chrétien, on peut passer par des épreuves, par toutes sortes d'épreuves. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on sera consolé. Oh, je ne sais pas comment on aurait pu réagir, comment Lazare a pu réagir en voyant cet homme riche qui aurait pu pourvoir à ses besoins et qui ne l'a pas fait. Peut-être que bien souvent des chrétiens disent « Mais nous, on est toujours frappés, il nous arrive toujours des épreuves, et les autres qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, eux, ils vivent une vie où c'est la fête. » Et cela fait penser à ce psaume 73, que c'est par lequel je voudrais le lire, le psaume 73. C'est un psaume qui fait beaucoup de bien, parce que des fois, dans l'existence, on se pose des questions. On se dit, mais je connais Dieu, j'ai été purifié par lui, et pourtant il m'arrive des épreuves. Et alors on ne comprend pas. Et on voit que cet homme, ce psaume, explique ce problème-là. Regardez le psaume 73. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. » Là, des fois, le chrétien peut avoir le pied qui va fléchir, voyant le païen réussir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant leur bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Et voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu le saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont tous les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Et ce croyant dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Chaque jour, je suis frappé.
Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à, j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais glisser et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Vous voyez, c'est là où le juste se pose des questions, jusqu'au jour où il comprend qu'un jour il y a un jugement. Mais le Seigneur nous exhorte à rester dans la foi, dans la confiance en lui, même au sein des difficultés. Et c'est vrai qu'il y a des passages qui peuvent nous encourager, comme dans Romains où il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée pour nous. » Et c'est pour cela qu'aussi l'apôtre Paul dit dans Corinthiens « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et c'est pour cela que le croyant peut même se réjouir, même dans les difficultés, même au sein de l'épreuve, même dans la maladie, même dans la pauvreté, dans le dénuement, parce que il sait qu'un jour, il sera dans la gloire, il sera consolé, il n'y aura plus ni souffrance, ni pleurs. Voilà le destin de celui qui a choisi de se repentir, qui a choisi de dire « Seigneur, transforme ma vie, je vais être ton enfant. » Voilà, il sait qu'il a un avenir glorieux. Même si sur la terre, il n'y a pas un avenir glorieux pour lui, il sait qu'il a un avenir glorieux là-haut dans le ciel. C'est pour cela, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une espérance. C'est quelque chose de vrai, c'est pas « Oh, peut-être que... » Non, c'est une assurance. C'est le Seigneur qui met dans nos cœurs cette assurance. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, et je serai rendu semblable à lui.